RTVFM. RTVFM.
Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, chers auditeurs, chers amis, chers internautes qui nous écoutaient ce soir. Je vais prendre la place de notre ami Lionel, à qui on adresse un petit salut pour cette émission RTV Sport du lundi soir, avec en compagnie de Valérie, qui est là, qui va nous accompagner toute la soirée. Salut Valérie.
Salut, bonjour à tout le monde.
Avec aussi Laurent qui rejoint la team, qui va s'occuper essentiellement de tout ce qui est course à pied, me semble-t-il, et course hors stade, c'est ça Laurent?
Oui, c'est ça.
Bonsoir Laurent.
Et bonsoir à tous.
Et puis Théo à la manœuvre, à la technique. Bonsoir Théo.
Salut Jean-Yves, salut à tous.
Et puis comme invité ce soir, on aura les représentante de Carpentras Équitation, Sylvie Couturier, la présidente, Marjorie Colbert, l'enseignante, et puis on aura un habitué de RTVFM, la personne Pascal Vassé. Pascal Vassé, c'est manager, c'est ça, du Mazan...
Sorgue.
Ventoux Compta Handball.
Mazan Ventoux Compta Handball, dont l'équipe 1 évolue en National 2 cette année, comme la saison dernière d'ailleurs. On reviendra un petit peu plus tard avec Pascal en première partie. On recevra les filles de Carpentras Équitation en deuxième partie d'émission à partir de 19h. Avant ça, on aura fait un petit tour d'horizon des résultats du week-end, Valérie.
Oui, quelques, on va dire, infos locales.
On reviendra aussi sur le GBC, le World GBC Tour, qui s'est déroulé ce week-end à Mazan samedi soir, avec des interviews de David Blanc et de Naïtedi Slimani, qui a remporté une brillante victoire, même si elle a été acquise un petit peu dans la difficulté, mais la victoire est là. Et puis, on fera un petit clin d'œil, on va dire. On essaiera de donner un petit coup de main à l'ESM de Monteux, qui est en difficulté. On recevra un petit peu le président de Monteux, on l'aura au téléphone en tout cas, pour essayer de faire avec lui un petit point de la situation, et puis voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines pour ce club, on va dire, historique, et qui est menacé de disparition suite à une affaire dont on reparlera avec lui, avec Guillaume, aux alentours de 18h45. On va passer aux résultats, Valérie, si tu le veux bien.
Oui, je vais commencer avec le basket, avec l'ABC Carpentras. Hein. Il y avait les U11 filles département qui jouaient à Carpentras. Il y a eu beaucoup, beaucoup de matchs ce week-end, entre samedi et dimanche à Carpentras. Donc, les filles rencontraient Sorgue et elles se sont inclinées 10 à 19. En U13 filles Carpentras, donc rencontraient Rognonas, et là, elles se sont inclinées 21 à 65. Il y avait un petit plateau en U13 garçons, Carpentras-Tarascon 12 à 50 et Carpentras-Orange 12 à 30. Bon, c'est en apprentissage, hein, donc ce sont des tout petits, on va dire. En U15 garçon département Carpentras donc recevait le Torque 86 à 44. En U18 filles département Carpentras donc rencontrait Bolène 56 à 28. En U18 garçon départemental donc Carpentras recevait Nyons, et là Carpentras s'est incliné sur le score de 47 à 99. En U17 garçon région Carpentras donc se déplaçait à Digne-les-Bains et l'a emporté sur le score de 63 à 51 après prolongation. En senior fille région Carpentras, donc s'est incliné face à Sainte-Marguerite 46 à 50. Et enfin, en senior garçon région, Carpentras recevait Châteauneuf-les-Martigues et l'a emporté de 3 petits points, 78 à 75. On va continuer avec le basket avec nos amis de Sorgue que nous avons reçus la semaine dernière.
Bien sûr.
Donc au niveau national 1, donc Sorgue se déplaçait à Kaisenberg. Hein, et l'a emporté 85 à 80.
Est-ce que tu sais où c'est, Valérie, Kaisenberg?
Oui, c'est du côté de Nancy, là-bas. C'est pas,
ouais,
c'est
exactement.
Pas ça, c'est dans l'est de la France, là-haut.
C'est un club qui est composé de multiples villages et caves coopératives.
Ah, d'accord.
Et qui ont réussi à monter au fil des années en National 1 et qui maintenant se retrouve dans la poule Est de ce championnat de National 1.
Et si je me souviens bien, normalement, Kaisenberg était les grands favoris. Et c'est Sorgue qui l'a emporté.
C'est Sorgue qui l'a emporté. Alors, j'ai eu notre ami Laurent Limongi au téléphone il y a quelques heures, là. Et Laurent me disait qu'ils étaient tombés dans une espèce de traquenard, qu'ils étaient à moins 17 à la mi-temps. Et puis que malgré tout, ils ont réussi à refaire leur retard et puis à s'imposer sur le fil. Et du coup, eh bien, on retrouve nos amis Sorgue à la 4e place de ce championnat de National 1. C'est vraiment, pour le moment, un beau parcours qu'ils sont en train de réaliser.
Mais je pense que cette année, Sorgue va bien se débrouiller. Il y avait du hand avec la National 2 féminine. Elles se déplaçaient, je ne me trompe pas, à Antibes. Et elles se sont inclinées sur le score de 39-34.
C'est ça.
Pascal nous parlera tout à l'heure du match. Donc, il pourra nous donner quelques éléments quant à leur, malheureusement, à leur défaite. Mais... on va être positif parce que c'est la 4e journée, c'est ça ? Oh non,
5e
journée, c'est ça. Et elles sont à l'art au niveau de la...
Elles sont 8e.
8e,
oui. Voilà.
Il y avait aussi du rugby à 15. Donc en fédéral 1, Bédarid, Châteauneuf donc recevait Mâcon. Et là, ils se sont inclinés 21-25. Là aussi, une petite défaite, mais une défaite malgré tout. Donc,
alors j'y étais, Valérie, si tu le permets, on va en parler deux petites secondes. Mais effectivement, j'étais à Bédarid ce week-end. C'était un match qui sentait le traquenard. C'était un match qui sentait vraiment pas bon pour personne. Parce que si Mâcon perdait... ils étaient définitivement en dehors du championnat pour le restant de la saison. Si Bédarid gagnait, il se sortait du ventre mou, on va dire. Et puis voilà, Bédarid a perdu. Ils ont remis Mâcon en piste. Heureusement qu'il y a eu des résultats qui ont fait que au classement, il n'y a pas trop d'incidence. Mais en tout cas, c'est plus sur le contenu que les gens ont râlé hier, et puis surtout les Bédaridés qui avaient l'occasion de rentrer dans les 4 ou 5 premiers, et puis finalement qui sont restés bloqués à la 6e place, ce qui est déjà pas mal pour un promu malgré tout.
Voilà. Et il y avait aussi en Fédéral 2 les Angles qui rencontraient Gruissant et qui ont fait un score, on va dire nul, 16 partout.
Vas-y, je t'en prie.
Là, je continue avec le motoball.
Il y avait de la Fédérale 3. Il y avait de la Fédérale 3 avec justement Monteux qui recevait Martigues et qui s'est imposé sur le score de 22-9. Ça fait du bien à tout le monde, cette victoire du côté du stade Berthier. Mmh. On y reviendra avec Guillaume, le président.
Oui, parce que la semaine dernière, si je me souviens, ils avaient été largement écrasés.
Ils avaient été même laminés la semaine dernière. Et puis voilà. Alors, il y a plein de choses qui se passent. J'étais en formation d'entraîneur avec des joueurs ce week-end de Monteux et du côté de Monteux. On parlera de tout ça avec Guillaume, le président, parce qu'il y a un vrai élan de solidarité qui est en train de se mettre en place. Et puis, il y a une vraie prise de conscience collective de tous ces gens-là pour essayer de sauver le club.
Voilà, je vais passer au motoball, si tu le permets.
Je t'en prie.
Il y avait la finale du trophée des champions. Donc, il y avait Neuville, qui était vainqueur du championnat de France, qui rencontrait Carpentras, vainqueur de la Coupe de France. Et Carpentras s'est malheureusement incliné, donc n'a pas pu faire le doublé. S'est incliné 2-3. En football, donc là je passe carrément football, en Coupe Ulysse, Entraigues rencontrait Saint-Didier l'a emporté 3-2, Monteux rencontrait Boulbon 1-3, et Mayan rencontrait Perne a été vainqueur au tir au but 5-4. Il y avait la Coupe Espérance 8e de finale, l'Étoile d'Aubune recevait Calavon 2-1, Gadagne donc recevait Saint-Didier, là malheureusement Saint-Didier s'est pris la volée 7-0, et les Dentelles recevaient Monteux 4-2 après la séance de tir au but. Il y avait la Coupe de France aussi, 5e tour, Pernes recevait Cap d'Aille et Pernes l'a largement emporté 5-1. Donc Pernes va disputer pour la seconde fois de son histoire le 6e tour de la Coupe de France. Donc,
beau résultat de la part de nos amis pernois qui ont l'habitude de briller dans les coupes, de différentes coupes d'ailleurs. On les voit souvent passer des tours. C'est une équipe de coupe en fait. C'est une équipe qui joue beaucoup au mental.
Il y avait aussi la Coupe Grand Vaucluse, il y avait les cadrages, donc là, Altène, donc, qui est en Division 3, donc, recevait Carpentras en Régional 2, et Carpentras donc, l'a largement emporté 0-3. Donc voilà.
Laurent, as des résultats, tu étais quelque part ce week-end ?
Alors ce week-end, oui, j'étais quelque part, j'ai travaillé.
Je
n'ai pas pu suivre l'actualité sportive du département.
Eh bien écoute, on va passer au World GBC Tour, si vous le permettez, il y avait cette soirée, là, c'était la 13e édition du World GBC Tour, brillamment organisée par David Blanc et son équipe, Bruce Caudron en tête, bien sûr. Il y avait quelques combats vraiment sympas auxquels on a assisté. On ne va pas tous les citer parce que vraiment, il y a eu beaucoup de spectacles, il y a eu beaucoup de choses. Mais effectivement, dans les combats qui ont marqué la soirée, en plus de 90 kilos, il y avait un duel de titans avec Valverde, le local de l'étape, on va dire, hein, puisqu'il est de par ici. Et Valverde a fait un combat monstrueux. Et c'est vraiment, incroyable les coups qu'on a vus. Et Valverde s'est sorti vainqueur de ce combat-là. Ça a été compliqué, mais il a réussi à s'en sortir. Il y avait aussi la première édition de la Bruce Caudron Talent Cup. On sait que Bruce s'est arrêté cette année de boxer pour raison médicale, on va dire. La retraite a été un petit peu anticipée. Et puis, ils ont voulu créer un challenge destiné à récompenser de jeunes boxeurs talentueux et prometteurs. Ça s'appelle la Bruce Caudron Talent Cup. Deux demi-finales et puis une finale en plein milieu de la Réunion. Le nom du gagnant m'échappe, Valérie, mais peut-être que toi, tu l'as. Alors, attendez, je vais le retrouver. Ouais, c'est Luc Géniès. C'était un monstre de qualité, c'est un monstre de vaillance. Il n'était pas donné favori parce que son adversaire avait fait une demi-finale exceptionnelle. Et puis finalement, il a réussi à s'imposer au mental, vraiment au mental. Il a pris des coups comme rarement on en a pris. Et puis finalement, il a baissé la tête et puis il a mis les bons, lui, pour arracher la décision des juges. Et puis enfin, le main event, on va dire, le combat de la soirée, c'était Eddie Knight Slimani qui affrontait un Allemand. Pareil, un mec qui avait gagné pas mal de combats ces derniers temps, qui avait été champion dans son pays et qui arrivait tout auréolé de ce titre de champion. C'est un combat pareil qui sentait un peu pas très bon pour Eddie. Alors Eddie, on le sait, le World GBC Tour, c'est son truc. Il est chez lui, c'est sa salle, c'est ses amis et c'est organisé par David. Donc ça lui tient vraiment à cœur d'être là. Il se consacre aussi à la préparation de la Nuit des Champions qui va arriver très vite, le 24 novembre, me semble-t-il. Mais en tout cas, voilà, Eddie Knight Slimani a fait le boulot, il l'a bien fait. Son adversaire était très, très, très résistant. Denis Vozic, il a tenu les trois rounds alors que tout le monde s'attendait à ce que Eddie fasse qu'une bouchée de ce boxeur. Et puis finalement, ben voilà, les juges à l'unanimité ont donné la victoire à Eddie. On va l'entendre, Eddie, Théo, si... J'ai eu la chance de rencontrer Eddie juste après son combat. C'était voilà, Eddie, c'est quelqu'un de très humble et qui est toujours ouvert lorsqu'on vient lui parler, même deux minutes après le combat. Et puis voilà, il nous parle de ce combat et de l'avenir pour lui. Allez, Eddie Knight Slimani, d'abord félicitations pour ton combat.
Bah merci bien, c'est gentil.
Comment tu l'as vécu ce combat et cette soirée de manière générale?
Alors c'est vrai que la soirée je l'ai vécu un peu, j'étais concentré sur mon combat, ça m'a pas empêché de regarder un petit peu les collègues boxer. Après je suis resté focus sur mon objectif, je savais que j'avais un gros et grand combat qui m'attendait face à Denis Vozic qui est sur une grosse série de victoires ces temps-ci. C'est un combattant rugueux, très solide, il l'a démontré ce soir, on s'attendait à un match compliqué et dur, c'est ce qui s'est passé. J'ai gagné à l'unanimité des juges, donc j'ai fait, je pense, une bonne différence. Après, c'est vrai qu'il m'a, c'est pour ça que je le remercie à la fin, parce qu'il m'a permis d'élever mon niveau pour travailler plus dur. Donc, c'était une zone où entre guillemets on nous attendait pas. Et soit on a prouvé que malgré dans le dur, on était capable de s'adapter, de durcir aussi le combat. Je l'ai touché à de nombreuses reprises. Il m'a touché aussi, mais c'est ce qui fait que voilà, j'ai pris plus de risques ce soir. Donc voilà, je suis satisfait de mon combat, même si je suis un éternel insatisfait parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Mais je pense que j'ai monté en niveau et j'ai monté en gamme ce soir.
On avait l'impression que tu maîtrisais le combat, mais en même temps, tu n'étais jamais tranquille ce soir.
Bah oui, parce que bon, après le combat, je pense que je l'ai maîtrisé. Après, c'est vrai qu'il revenait sans cesse comme un rouleau compresseur. Hein, on s'y attendait à ce qu'il rentre beaucoup. Il était assez limité. Il travaillait sur 3-4 enchaînements. Donc, c'était quelqu'un qui était prévisible. C'est vrai qu'il fallait rester très, très lucide. Et très, fallait rester lucide jusqu'à la fin parce que comme on l'a vu, ça a été un rouleau compresseur du début à la fin. Il a cherché à muser d'entrée de jeu. Il pensait qu'il allait m'avoir, malheureusement pour lui et heureusement pour moi, ça s'est bien passé.
C'est bizarre, ces boxeurs capables de prendre énormément de coups finalement, parce que je l'ai trouvé moi très courageux, ce type.
Ah oui, effectivement, hein, très courageux, très résistant. Il a pris quelques bons coups durs. Il avançait toujours. Il avait soif de victoire, il avait faim de victoire. Mais ce soir, je suis content parce que j'ai montré un autre niveau au niveau de ma boxe et un autre visage. Voilà, c'est le terme. J'ai montré un autre visage. Peut-être là où on ne m'attendait pas, bah, j'ai montré que j'étais capable de surprendre. Il reste encore du travail, ça c'est clair, net et précis. Et c'est pour ça que ce soir, je suis content aussi, c'est qu'il reste du travail et que je vais pouvoir me perfectionner dans d'autres domaines. Parce qu'on a plus l'habitude de me voir sur une boxe spectaculaire aérienne. Ce soir, je pense que j'ai posé ma boxe. Il reste encore des choses à travailler, mais je suis optimiste pour la suite.
C'est quoi la suite maintenant, Eddy ?
La suite ? La suite, c'est le 25 novembre. 24 novembre, pardon. 24 novembre à la Nuit des Champions. Face pour le titre NDC des 65 kilos. Détenu initialement par Abdallah Isberi, mais le titre étant vacant parce que Abdallah ne souhaite pas me rencontrer à cette date. Donc j'affronterai l'Espagnol Daniel Puertas, qui a battu par KO Cédric Castagna l'année dernière.
Merci. Voilà les paroles de Eddy juste après son combat. Hein, il avoue que ça a été compliqué pour lui. Il avoue s'en être sorti d'une bonne, mais finalement, ben voilà, une fois de plus, il gagne, Eddy. Même en étant en difficulté, c'est peut-être la force aussi de ce genre de boxeur. Hein, c'est que même quand c'est compliqué, ben, il arrive à s'en sortir. C'était vraiment une superbe soirée. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec David Blanc, l'organisateur. Alors David, des soirées comme ça, il est tout en fait, hein, il est de partout. Il est organisateur, il est entraîneur de 3 ou 4 boxeurs. Ils ont aussi fait quelque chose de très bien. Ils ont donné une espèce d'exhibition à tous les gamins de l'école de kick. C'était vraiment sympa. On va écouter l'interview de David Blanc qui nous a parlé pendant quelques minutes.
Vas-y. Oui, oui.
Ouais, voilà.
C'est bon,
c'est bon, Théo, il arrive, David ?
Juste 10 secondes et c'est bon.
Allez, bah, écoute, on va.
Le temps de télécharger.
Ouais, le temps de télécharger la cassette.
C'est bon.
Merci pour la cassette, Théo. David ?
Avec plaisir.
Tu es là, David ?
C'est bon, il est là.
David. Ouais. Allez, le mot de la fin avec David Blanc, l'organisateur, coach de la soirée, David. Un grand succès encore à cette 13e édition.
Ben oui, personnellement, je suis satisfait parce que ben, je sens que les gens, que le public, que tous les gens qui nous suivent, nos partenaires ont vraiment apprécié. On a d'excellents retours. Les boxeurs ont fait ce qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire qu'ils ont fait le job. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on organise, on a beau faire ce qu'on veut, mettre l'emballage, mettre voilà, mais après c'est les boxeurs qui font la différence. Et ouais, surtout qu'il y avait des matchs que je voulais vraiment voir. Et qu'on est arrivé à mener au bout. Et en plus, voilà, je sens que de plus en plus, au niveau de l'organisation du World GBC Tour, pour beaucoup de boxeurs français ou étrangers, le fait d'être ici, ils savent que c'est une date importante, que voilà, donc ils vont au bout d'eux-mêmes. Et voilà, super, vraiment super content, ouais, super content. En plus, on clôture avec un très bon combat d'Eddy, voilà. Je dirais pas excellent, mais un très bon match. Voilà, il y a encore du travail, mais ça fait, c'est le sport, c'est normal, il faut voilà. Mais voilà, on part sur de bonnes bases pour cette saison qui arrive, je pense. Voilà, on va rapidement voilà, travailler 2-3 petits trucs pour continuer à progresser, mais voilà, très satisfait dans l'ensemble.
Je t'ai vu beaucoup communiquer ce soir pendant le combat avec Eddy. Vous avez pas mal communiqué, vous êtes balancé beaucoup de regards et vous avez pas mal échangé. Tu sentais qu'il y avait vraiment besoin ce soir plus que d'habitude, parce que il me semble que d'habitude tu fais un petit peu moins.
Ouais, c'est tu sais, après c'est pas forcément calculé, mais dans le sport, enfin tu es bien placé pour le savoir, hein, tu es dans l'humain, donc tu es dans l'émotion, tu es dans le truc comme ça. Et il y a des fois oui où tu sens que ben voilà, il faut faire bloc, il faut voilà. Et ouais, ce soir c'était comme ça, mais je pense que ben on a quand même des rapports entraîneur boxeur dans des sports comme ça d'engagement. Au même titre que le rugby ou d'autres sports ou de contact ou voilà, où t'as vraiment voilà cet esprit de corps, de famille, d'équipe, etc. Et oui, parce que ben le fait de bien se connaître, et puis il y a des fois sur certaines choses ça permet aussi de ben, d'aller plus loin, de repousser ses limites. Peut-être que seul ben tu te contentes un peu, et peut-être que pour quelqu'un, ou selon ce qu'on va te dire, selon ce qu'on va chercher comme émotion, ça va te faire agir d'un sens ou de l'autre. Et le fait de bien se connaître, eh bien on peut voilà, on peut activer tout ça, donc pour un résultat qui est voilà, qui est très satisfaisant pour l'année qui arrive.
La partie organisation, ça y est, c'est de côté maintenant, et tu te consacres sur la prochaine date d'Eddy, c'est ça?
Oui, voilà, donc là ben on va prendre un jour ou deux, voilà, histoire de parce que c'est quand même du boulot d'organiser, hein, même si c'est une passion, et même si c'est voilà, c'est quand même énormément de travail. On va prendre un petit peu du temps aussi, parce que je tiens vraiment à remercier ben, toute l'équipe de bénévoles, parce qu'il y a un moment, David Blanc, mais bon, David Blanc, il n'y a pas que David Blanc. Il y a surtout une superbe équipe, qui est à mes côtés, qui nous fait confiance et qui, voilà, on, depuis presque 20 ans, hein, c'était la 18e. Donc voilà, écoute, c'est magnifique. Et puis voilà, puis là, après, on va rapidement se mettre sur la nuit des champions. Et puis voilà, ça va nous permettre d'être plus focus. C'est vrai que dans la même soirée, avoir les boxeurs, être organisateur, il y a un petit peu de relationnel à faire, de communication, etc. C'est pas simple. Voilà, donc c'est vraiment pas simple. C'est pas simple. Pour moi, c'est pas simple pour les boxeurs parce qu'on n'a pas le même rapport. On passe pas le même temps au vestiaire, etc. Le temps de préparation est un petit peu différent parce qu'ils sont un peu esselés, parce que ben, je suis un peu multitâche, c'est des jours comme ça. Et à la différence, c'est que petit à petit, ben, Bruce est de plus en plus impliqué également. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me touche, parce que l'aventure est belle et l'aventure continue surtout. Moi, c'était impensable qu'à la fin de sa carrière, ça c'est voilà quoi, il y a pas de fin quoi. C'est de l'amitié, c'est du plaisir, c'est voilà. Donc le Bruce Caudron Talent Cup, ça m'est venu, ça m'a coulé de source, on en a parlé, donc voilà, c'est lancé. Et on l'a lancé de belle manière, et je suis super content et super fier du retour des boxeurs qui ont participé à ce trophée, qui sont venus me voir en aparté et qui m'ont dit: David, vraiment, l'opportunité de faire un tournoi dans cette organisation, c'est déjà magique. Mais en plus, le fait qu'il soit labellisé Bruce Caudron, avec la carrière et le respect qu'on a pour lui, nous, jeunes combattants, franchement, c'est top. Et là, ça m'a vraiment, voilà, ça m'a touché. Je suis comme ça, voilà. Des fois, on a l'impression que selon les disciplines ou les sports, on est un peu bourru ou quoi que ce soit. Mais souvent, c'est l'inverse. Souvent, on est un peu des faux, voilà. Et l'émotion prend le dessus. Donc voilà, donc l'histoire continue. Et puis au-delà de ça, ben voilà, il y a tous les gens qui nous suivent pour la communication, la visibilité, nos partenaires médias. Enfin voilà. Et ça se fait, tout ça, ça se fait dans une ambiance que j'apprécie, où personne se prend la tête, ou voilà, c'est un travail collectif. Donc voilà, j'espère que ben, qu'on sera là encore pendant quelques années, hein, et puis qu'on pourra encore discuter longtemps, et puis voilà.
Avec plaisir, David, merci beaucoup. Merci, voilà. Merci pour tout.
Keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. The sun goes down.
Eh bien, nous voici de retour en direct dans les studios de RTVFM avec nos amis Pascal Vassé. Mesdames, je suis déjà Sylvie Couturier, pardon, Marjorie Colbert et notre ami Laurent pour continuer cette émission. On va faire une petite aparté de rugby à 15, si vous le voulez bien, avec notre ami Guillaume Roblin, le président de Monteux, que j'ai souhaité m'avoir au téléphone pour qu'il nous parle un petit peu de la situation de son club. Guillaume, tu es là ?
Oui, bonjour.
Salut Guillaume, bonjour.
Guillaume, je voulais, écoute, je voulais te mettre à l'honneur, c'est un bien grand mot et malheureusement ça serait passé de ce genre d'honneur, mais je voulais que t'avoir au téléphone pour revenir un petit peu avec toi sur ce qui agite un petit peu le monde du rugby ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas arriver à sauver le club? Parle-nous un petit peu déjà de la genèse de l'histoire, Guillaume, s'il te plaît.
Alors, la genèse de l'histoire, tout d'abord, merci beaucoup de l'audience que vous me faites parce que ça me fait très plaisir. Donc, je vous en parle en deux petits mots. Quand j'ai repris le club le 1er juillet 2015, j'ai fait un audit comptable. Ça, c'est pour l'arriéré complet, hein, vite fait. Ne donnait pas les chiffres qui avaient été donnés à l'Assemblée Générale. En fait, il y avait une perte comptable de 120 000 euros. Donc, j'avais fait un plan sur 3 ans pour essayer d'apurer les comptes. Et en fin de compte, sur 1 an, c'est-à-dire fin de saison 30 juin 2016, j'ai réussi à, par tout un tas d'abandons de dettes, etc., aller chercher des sponsors, etc. Bon, bref, j'ai réussi à ce que les comptes soient sains. On a sorti une situation comptable au 30 juin 2016, soit 1 an après, à peu près 1 000 euros. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir que j'ai eu des dossiers, différents dossiers, donc sur ces 120 000 euros de déficit lorsque j'ai repris le club, dont je n'ai été absolument pas prévenu et je n'avais aucun document, en fait, qui pouvait justifier ce genre de choses, ou tout du moins très très peu, on va dire. Donc j'ai eu des difficultés à appréhender la situation financière du club. Donc ça a commencé par là, et puis on en vient aujourd'hui, malheureusement, à ce que beaucoup ont lu dans les journaux, suite à mes déclarations, le 31 janvier 2009, donc bien avant mon arrivée, sur une mêlée régulière lors d'un match Valence-Monteux, en Fédéral 2, un joueur de Valence a été mordu au doigt et on a incriminé un joueur de Monteux qui a été attaqué dans un premier temps par le joueur de Valence, qui a été acquitté. Ensuite, le joueur de Valence a pris, avec la CPAM, à attaquer le club pour, à un moment donné, il y a une responsabilité, en tout cas, c'est ce que disent les textes, sur tout licencié appartenant à une association, l'association est responsable des gestes et des actes du licencié lorsqu'il est dans le cadre de l'association sportive. Voilà, dans le cadre de l'exercice, on peut appeler effectivement ça comme ça. Donc ce dossier-là n'ayant pas été non plus prévenu, nous est tombé dessus. Donc le jugement en première instance m'a été signifié par huissier et j'ai constaté qu'effectivement il y avait un certain nombre de préjudices qui avaient été chiffrés et la facture se montait à l'époque à 52 000 euros puisque j'ai fait appel pour essayer de voir comment on pouvait éventuellement faire, bien sûr avec l'aide d'un avocat, et il s'est avéré que
Guillaume
lors de l'appel a été en fait confirmé le jugement en première instance en nous mettant 2000 euros d'article 700 en plus, soit 54 000 euros. Et c'est exécutoire, donc logiquement devrait payer de suite. Et ça m'a été signifié entre fin juin et début juillet, c'est-à-dire après l'Assemblée générale de l'UE.
Guillaume, et du coup, donc, je vais te presser un petit peu parce qu'on a un top à 19h et je te reprendrai un petit peu après. Là, dans l'instant, quel est ton... Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce que tes joueurs ont répondu présent hier dans un premier temps sur le terrain.
Oui.
Ça, c'est déjà plutôt une bonne chose, hein, puisque ton groupe fait front et plutôt de belle manière. Qu'est-ce qui va se passer là dans l'instant maintenant, Guillaume? Comment tu vas essayer de redresser le truc et de sauver le club?
Alors, dans l'instant, déjà, les joueurs ont répondu sportivement sur le terrain hier d'une manière tout à fait unitaire. Oui, puisqu'ils étaient tous là, ils ont tous répondu présent. Il faut savoir qu'un certain nombre d'entre eux ont répondu présent aussi au niveau financier, puisque les primes de match ou les remboursements de frais, etc., ils m'ont tout simplement dit que c'était pour le club et que le club les gardait. C'était un don, c'était leur manière à eux de participer au club. Ils n'ont pas tous fait, mais il y en a une grande partie qui l'ont fait. Et puis après, il y a des gens qui se sont aussi un petit peu manifestés au fur et à mesure. Les grandes lignes, si tu veux, de ce qui va se passer, c'est que j'ai réuni mes troupes la semaine dernière. Donc on a décidé de faire un certain nombre d'événements pour pouvoir essayer de rentrer financièrement au club un certain nombre de choses qui puissent nous permettre de pouvoir subvenir aux besoins du club, qui est simplement d'affronter et de payer le jugement qui nous est opposé aujourd'hui. Voilà. Après, dans les grandes lignes, Il y a une caisse sur
Guillaume, est-ce que tu as 2-3 minutes à nous consacrer, Guillaume? Je vais lancer une musique parce qu'on est tenu de le faire et je reviens vers toi dans 3 minutes. Est-ce que tu seras toujours dispo?
Je suis toujours dispo.
Allez, reste en ligne, Guillaume, on te reprend tout de suite. Merci.
Merci, à de suite.
Watching her, but she's looking at
On est de retour avec notre ami Guillaume Roblin, le président de Monteux. Guillaume, excuse-moi, on t'a coupé un petit peu. Allez, on revient avec toi. On a 3 minutes pour que tu nous expliques vraiment où tu en es, les actions et puis la suite maintenant.
Oui, je suis un peu désolé de d'être aussi long, mais je suis tellement affecté par cette situation.
Je sais, je t'ai vu.
Tellement touché que.
Bien sûr, on le saurait à moi.
Il est difficile de raconter en très peu de temps, mais déjà j'ai la chance de pouvoir en parler. Donc, en fait, ce que je disais pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est qu'effectivement, un certain nombre de joueurs avaient aussi fait financièrement des sacrifices qui puissent se permettre, alors des sacrifices sous toute forme, hein, abandon de primes de match, abandon des indemnités, comme je disais, ou alors don au club, tout simplement. Les joueurs ont fait un chèque au club. Bon, voilà, c'est certains, pas tous, mais certains, j'ai trouvé ça très très bien. Nos juniors ont monté une cagnotte. Sur Facebook, Litchi, qui permet de pouvoir, bien sûr, avec mon accord, parce que je centralise l'ensemble des actions pour éviter que ça parte dans tous les sens, bien sûr. Donc, c'est à l'initiative de nos juniors, donc c'est très très bien. Et puis, moi, j'essaie de contacter un petit peu les gens que je connais, les gens qui sont autour, donc pour récupérer des sommes. Mais encore une fois, et ça, j'espère que ça sera écouté et entendu de tous, c'est que il faut pas se cacher en disant, oh là là, je veux pas donner 20 euros au club. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est de dire, il y a des dons, oui, mais des dons aussi en nature, des dons intellectuels, des dons en numéraire. Venir au repas d'avant-match, ça fait partie de faire un don au club. Participer au loto, qui sera le 9 novembre prochain à Monteux, à la salle des fêtes, c'est aussi participer. Donc, venir nombreux pour acheter des cartons. Venir manger, il faut bien manger pour manger, faut bien payer, pardon, pour manger. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, si vous voulez, qui sont, je pense, simples à partir du moment où on veut donner un coup de main et d'être un petit peu solidaire et donner un petit peu de temps. Maintenant, en ayant réuni mes équipes, le groupe de l'ESM, le noyau dur et puis certaines personnes nous ont rejoints, donc on va mettre un programme de manifestation en place que je vous dévoilerai très très bientôt, parce qu'on est en train de le boucler, pour être très honnête, parce que tout va très très vite, donc il faut que nous on aille bien aussi sûr. Vite, mais je rappelle qu'on n'est que des bénévoles et qu'on travaille pour la plupart tous, en tout cas pour la direction du club et les gens qui forment le noyau dur. Donc je communiquerai dessus, j'arrive très rapidement.
Guillaume, un dernier mot et puis on va te laisser, je sais que tu es très pris. Si on prend l'hypothèse la plus belle, tu réussis à sauver le club, si on, dans le pire des cas, tu as combien de temps et c'est combien?
Alors la réalité, l'exactitude des choses, c'est que combien de temps, j'en ai pas. Pourquoi?
D'accord.
Parce que le jugement est exécutoire et qu'il m'a été signifié par huissier, on va dire début juillet, pour fin juin ou début juillet.
D'accord.
Donc ça veut dire que le club aurait dû payer les 54 000 euros à cette date. Donc il y a un acompte qui a été payé de 30 000 euros. 20 000 euros de provision sur les comptes que j'avais fait sur l'année d'avant, puisque étant au courant, bien sûr, puisque j'ai fait appel de cette affaire-là, qui est loin de couvrir, bien sûr. Donc ça, c'est les fonds du club. Et puis après, on a encore 34 000 euros à verser. Donc il y a un acompte de 30 000 euros qui a été versé, les 20 000 plus 10 000 euros que je me suis débrouillé à obtenir rapidement pour pouvoir les payer. Donc il nous reste 24 000. Mais si on va au fond des choses aujourd'hui, il nous faudrait 34 000 euros. Parce que 54 000, moins les 20 000 de provision de l'année dernière qui appartiennent au fond du club, avec les 34 000 euros qu'on pourrait éventuellement récupérer, on va dire 30 000 pour arrondir les chiffres, je m'en sortirai.
Voilà. Et sinon,
maintenant, il faut savoir que sur 200 000 euros de budget, 50 000,
c'est énorme.
On va dire 54 000, c'est énorme.
Ouais. Voilà. Et sinon, Guillaume, un dernier mot, et après on te laisse, et puis on passe à la suite. Mais un dernier mot, si tu ne trouves pas tout cet argent.
Bah, le pire du pire, c'est que... Malheureusement,
c'est la quatrième série la saison prochaine.
220 enfants à la porte. Ben, c'est-à-dire que si on ne peut plus fonctionner, ben, des minots de 6
bien
à 18
sûr.
Ans ne seront plus au club. Maintenant, ce n'est pas une hypothèse que j'imagine.
Bien sûr.
C'est une réalité. C'est quelque chose qui est là. Mais c'est impossible. Voilà.
Écoute, Guillaume, merci d'avoir pris quelques minutes. On va te laisser, on va suivre ça de près. Et puis, tu sais, à titre personnel, sur la radio, on reviendra vers toi pour savoir un petit peu où on en est dans quelques temps. Bon courage et puis, écoute, le meilleur pour vous.
Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup de votre soutien à tous. C'est énorme.
Avec plaisir. Beaucoup. Avec plaisir, Guillaume. Merci.
À très vite.
Eh ben voilà, écoute, je tenais vraiment à passer ce coup de téléphone à Guillaume Roblin, là, qui fait un boulot monstrueux depuis qu'il est arrivé à la présidence du club. Il a hérité de situations un peu pas très bonnes, et puis voilà. C'est dommage que ça lui arrive. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus réjouissant, Valérie.
Oui, le hand.
On va passer...
le hand avec Mazan.
Avec Mazan, le hand, Pascal Vassé, directeur technique, manager...
Alors, vice-président délégué depuis la dernière Assemblée Générale.
Voilà. Oh, pardon, mes respects. Monsieur le vice-président. Pascal, parle-nous un petit peu de ce club, du coup, puisque nous, on le connaît, mais nos auditeurs ne le connaissent pas. Il a combien d'années d'existence, ce club, Pascal?
Il a 40 années d'existence, au moins 40 années d'existence. Je n'ai pas fait le compte avant de venir, c'est une question piège.
Ben oui.
en tout cas, moi, je voudrais rebondir finalement sur ce qu'on vient d'entendre de la part du président de Monteux, savoir que quand on dirige un club, il faut se soucier en permanence de l'aspect financier. Si on doit retenir quelque chose de cet échange, c'est ça. Et c'est en tout cas essayer d'anticiper toute situation financière. Et avoir un petit report chaque année sur de trésorerie d'une année sur l'autre, c'est indispensable, parce que sinon, en cas de coup dur, on est en difficulté, quoi. Donc,
tu me tends la perche là, mais on sait maintenant que les clubs survivent plus qu'ils ne vivent pour la plupart. Il y a la baisse des dotations des collectivités locales, il y a les sponsors qui sont un petit peu plus frileux. Comment vous en sortez, vous, par exemple, à Mazan, au quotidien? Je sais qu'il y a un énorme boulot qui est fait avec une multitude de partenaires. Comment vous le gérez, vous?
C'est un travail, j'allais presque dire, au quotidien. C'est-à-dire qu'on mène un certain nombre d'actions tout au long de l'année pour fidéliser nos partenaires privés. La dernière action en date, c'est la sortie d'un livret. Mais on fait des soirées partenaires au sein des entreprises. Enfin, on fait un grand nombre d'actions visant à à améliorer la visibilité pour tous ses partenaires et puis si possible les fidéliser dans la durée. Alors c'est pas chose facile. À l'heure d'aujourd'hui, on est autour de 80 partenaires. On pense que pour pouvoir continuer à bien travailler, il faut pas qu'on aille forcément beaucoup au-delà de ce nombre-là. Alors évidemment, il y a des gens qui chaque année nous laissent, ne renouvellent pas leur soutien, donc il faut qu'on en trouve de nouveaux. Mais voilà, la 80 partenaires, c'est bien parce que c'est pas facile. À vouloir aller trop loin, après, on risquerait de se mettre en difficulté.
Allez, après cet aspect financier, parlons-nous un petit peu maintenant de l'aspect, on va dire, sportif, puisque vous avez engagé depuis maintenant deux saisons une équipe en National 2 féminine.
Oui, enfin, on ne l'a pas engagée, elle s'est engagée elle-même. Oui, c'est pour la deuxième année consécutive. Eh bien, la première année nous avait laissé du temps avec justement la refonte des championnats, nous avait laissé du temps pour nous adapter au niveau. Cette année doit nous permettre de faire mieux en termes de résultats et de classement. Alors, c'est vrai que le début est un petit peu délicat par rapport aux résultats. On espérait une victoire à Antibes, malheureusement, ça n'a pas été le cas ce week-end. On est convaincu qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a bien un déclic qui va se produire incessamment sous peu. Ça, on en est à peu près certain parce que les filles font ce qu'il faut à l'entraînement. Il y a une bonne ambiance de groupe. Il y a une vie de groupe qui est vraiment très, très positive. Et puis, un investissement de chacune lors des séances d'entraînement, des belles séances d'entraînement. En match, il manque un petit quelque chose. Bon, c'est de l'efficacité essentiellement dans le duel tireur-gardien où on pêche le plus. Et puis aussi quelques pertes de balles maladroites qui font que on se fait punir à chaque fois. Mais le jeu est en place. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et il n'y a pas le feu pour le moment.
Oui, Valérie.
Moi, je voulais rajouter, là, puisque justement l'équipe, on va dire, il y a eu des départs, hein, entre autres, je pense, de Julie et Ricard, qui était quand même une bonne tireuse. Mm-hmm. Il faut peut-être laisser, effectivement, là où je te rejoins, l'équipe se reformer, retrouver des marques, puisqu'il manque quand même un ou deux éléments qui étaient assez, on va dire, essentiels.
Oui, oui. Ouais,
et changement de staff aussi.
Oui, changement de staff, même si c'est quand même un petit peu dans la continuité, parce que Vincent travaillait déjà avec Karl. Donc, c'est un changement dans la continuité, oui. Et puis, c'est vrai qu'il y a un changement de joueuse, mais par rapport à ce qu'on voit à l'entraînement, le niveau de l'équipe n'a pas baissé, loin de là. Et il suffit simplement d'être un peu plus efficace, de retrouver de l'efficacité sur le plan offensif. Et puis, les choses devraient rentrer dans l'ordre et les résultats devraient arriver très rapidement.
Comment vous gérez ça? Parce est-ce qu'il y a eu d'abord des arrivées de joueuses cette année en National 2?
Alors, arrivée non, retour oui, et passage de moins de 18 à National 2 pour certaines. Donc on a intégré, Vincent a intégré des jeunes filles dans le groupe, des jeunes filles qui pourraient encore jouer en moins de 18 d'ailleurs pour certaines. Donc c'est un groupe jeune, hein, de toute façon, renouvelé en partie, et qui doit prendre la mesure de l'exigence du niveau, mettre un petit peu plus de combativité certainement dans certains instants, un peu plus de conviction, de niaque, quoi, hein, voilà, notamment dans le duel tireur-gardien. Parce que dans le jeu, encore une fois, les choses sont en place, quoi. C'est pas mal du tout ce qu'elles produisent, aussi bien offensivement que défensivement. Mais voilà, il faut que l'équipe fasse preuve d'un peu plus de caractère dans les moments clés des rencontres. Par exemple, ce week-end, elles étaient malmenées. Elles reviennent à 30-30. Et c'est à ce moment-là qu'il faut enfoncer, qu'il faut mettre la tête de l'adversaire sous l'eau. Et elles sont pas capables de le faire. Un échec, deux échecs, contre-attaque dans l'autre sens, et badaboum, l'écart est reparti dans l'autre sens. Donc voilà, il faut tuer le match, et pour l'instant, elles n'ont pas trouvé la clé pour le faire.
Est-ce qu'il y a un leader, excuse-moi, hein, parce qu'on est l'un à côté de l'autre, donc on ne se voit pas.
On ne se voit pas, ouais.
Donc il faudra que je me mette en face la fois prochaine. Ce que je voulais dire, est-ce que tu as un leader qui se détache de ce groupe?
Eh bien justement, c'est peut-être là le manque pour l'instant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la... Ben, Cynthia, elle a 20 ans, donc on aimerait qu'elle...
On attend peut-être beaucoup,
et peut-être qu'il vaut mieux d'abord qu'elle se concentre sur elle-même, qu'elle soit efficace.
C'est une pression pour elle supplémentaire.
Oui, oui, donc c'est un juste équilibre des choses. C'est un collectif, hein, donc quand on intervient sur les autres, ça peut être au détriment de sa performance perso, donc enfin individuelle. Donc il faut faire attention. Il y a des équilibres à trouver. Il faut que je pense que l'énergie, elle doit venir du collectif, quoi. Voilà, davantage du collectif.
Est-ce que c'est pas ça juste qu'on appelle l'expérience finalement à ce niveau-là?
C'est-à-dire la maturité.
Savoir tuer des matchs quand on doit les tuer. Je reviens juste. Tu parlais des moins de 18 là qui ont intégré l'équipe 1 cette année. Parle-nous aussi de cet accord que vous avez là, de ce,
partenariat,
un pacte.
C'est un partenariat ou plutôt une convention avec le club de Sorgues, une convention annuelle, hein, renouvelable chaque année, qui permet aux gens de jouer au sein d'une même équipe. Licenciés dans leur club respectif, tout en restant licenciés dans leur club respectif. Oui. C'est-à-dire que en National 2, on a des joueuses licenciées à Mazan et on a aussi quelques joueuses licenciées à Sorgues.
Est-ce que ça peut pas être aussi quelque part un vivier? Parce que je me souviens que la saison dernière, vous aviez incorporé 3-4 joueuses, me semble-t-il.
Mais complètement, c'est complètement un vivier. Puis il y a une équipe réserve qui joue en pré-national avec des très jeunes filles, pour le coup.
Très vieilles aussi.
Et quelques très vieilles, mais beaucoup moins. Hein. L'an dernier, il y avait beaucoup de très vieilles. Maintenant, c'est beaucoup de très jeunes.
Qu'est-ce que vous appelez des très vieilles?
Tout est relatif, bien sûr.
Tu joues encore au Rwanda à 40 ans, finalement, tu...
Quelque part, tu es
un peu vieille, entre guillemets.
Ah oui, mais ça, c'est certain.
L'idée, c'est que chaque joueuse adulte puisse jouer à son niveau. Quand je dis adulte, parmi elles, il y a des jeunes filles, hein, qui ont 17-18 ans, quoi. Et donc, que tous ces gens-là puissent jouer à leur niveau. Donc, la convention permet ça. C'est-à-dire que une jeune fille de Mazan, peut-être, devrait jouer en National 2 ou pas jouer s'il n'y avait pas de convention. Alors que là, elle peut jouer avec la pré-nationale si elle n'a pas le niveau pour jouer en National 2. Et inversement, Laurine Combe, par exemple, aurait très probablement quitté le club de Mazan si elle n'avait pas pu jouer à Mazan l'an passé. Elle aurait très, très probablement quitté le club de Sorgues.
Bien sûr.
Donc voilà, donc c'est une mutualisation des forces et qui permet à chacune d'avoir au moins deux possibilités en termes de niveau de jeu.
Et tu as des joueuses qui font l'aller-retour entre les deux groupes?
Alors,
où il y a vraiment trop d'écart?
Il y a un écart important,
bien sûr.
Mais il y a des possibilités pour certaines d'entre elles de faire des allers-retours.
Parce que je reviens toujours...
Et aussi avec les moins de 18, parce qu'il y a la pré-nationale et il y a aussi les moins de 18 ans qui jouent en championnat de France. Donc c'est là où il y a des passerelles aussi, avec les deux équipes en fait, il y a des passerelles.
On sait aussi que historiquement, le hand c'est un sport où il y a une formation monstrueuse qui se fait en amont. Il n'y a qu'à voir les résultats des filles de l'équipe de France et des garçons de l'équipe de France. Est-ce qu'on retrouve cette formation-là, cette exigence à ce niveau-là aussi, je pense à Sorgues ou à Mazan? Est-ce qu'il y a une continuité? Parle-nous de la formation des jeunes joueuses, par exemple.
Alors, c'est un vaste programme, la formation des jeunes, Jean-Yves.
Et oui, mais tu sais que c'est... on sait tous les deux qu'un club qui ne fait pas de formation est appelé à disparaître très vite.
Alors, nous, ça a toujours été le fil conducteur de notre action. Enfin, en tout cas, moi, depuis que je suis au club, depuis, je ne sais plus exactement, mais 97, par là, ou quelque chose comme ça, ça a toujours été la raison de mon investissement dans ce club, de mon engagement dans ce club. D'abord en tant qu'entraîneur et puis maintenant en tant que dirigeant. Et tous les gens qui œuvrent aujourd'hui sont dans cette logique-là, la formation avant tout. Et donc, on a mis des moyens pour la formation. C'est-à-dire que Vincent, même si aujourd'hui il est responsable de la Nationale 2, il est avant tout responsable technique du club. Il est salarié du club et responsable technique. Et puis, on vient de recruter Charles Noël, qui est agent de développement et qui est en charge des moins de 18 ans et qui a en charge tout le le suivi des équipes de jeunes des premiers pas aux moins de 15 ans. À la fois, donc, son boulot, c'est ce suivi-là et en même temps de faire de la détection, de la promotion du handball dans les écoles et autres centres sociaux, par exemple. Donc, c'est et on essaie de faire en sorte que sur chaque groupe, il y ait deux entraîneurs, des entraîneurs diplômés. Enfin, voilà, c'est vraiment le fil rouge, le fil conducteur de notre action, hein, la formation.
Et la formation d'arbitre aussi, je crois. Hein.
Oui, ça fait aussi, partie hein. Des impositions, même, voilà. Et bien sûr.
Ah, parce
oui,
que ça
oui.
Vous êtes imposé par
oui,
la fédération.
Tout à fait.
Ah, d'accord, je ne savais pas. Je pensais que c'était d'initiative que le club envoyait joueurs comme arbitre.
C'est une obligation.
Est-ce que vous avez régulièrement des retombées quand on voit les filles de l'équipe de France, par exemple, qui ont des bons résultats, ou les garçons? Est-ce que ça rejaillit sur vos effectifs, par exemple? On a vu ça cet été avec le foot. Excusez-moi, on a vu ça avec le foot cet été, où un titre de champion du monde ramène mécaniquement, on va dire, des gamins dans les écoles de foot, et même des gamines, pour le coup. Est-ce que toi, tu ressens ça quand il y a quelque chose de bien, par exemple?
Une équipe est championne du monde ou championne d'Europe?
J'ai envie de vous dire que c'est difficilement mesurable. Et puis, je ne suis pas du tout convaincu que c'est un impact majeur. Je ne pense pas. L'impact qu'on peut avoir pour promouvoir l'activité, c'est les interventions que l'on propose dans les écoles en temps scolaire ou hors temps scolaire. Mais ce sont ces choses-là. Et c'est l'impact local, c'est la communication locale. C'est tout ça qui va faire que les jeunes vont venir vers le club, vont venir vers l'activité. La Coupe du monde de foot, c'était pendant l'été. Toute la France parle de foot. Le foot, c'est un sport hyper populaire. Tout le monde en parle, donc ça a forcément un impact. Nous, quand il y a un championnat d'Europe ou un championnat du monde de handball, en général, sur les chaînes classiques, non payantes, on a droit éventuellement à une demi-finale et à la finale, à condition que la France y soit. Donc, l'impact est nettement moindre. Et en plus, ces compétitions-là, à part lors des JO, ont lieu en fin d'année. C'est-à-dire que là, il va y avoir un championnat d'Europe au mois de décembre, féminin. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Est-ce que vous en avez entendu parler?
Non.
Moi, oui, parce que,
l'actualité. Tu savais qu'il y avait quelque chose, mais tu ne savais pas vraiment.
Voilà.
Donc voilà, par exemple, il y a un championnat d'Europe féminin en France au mois de décembre. Donc peu de gens le savent. Donc cette résonance-là, elle est minime, quoi, finalement. Hein. Et il faudra que l'équipe de France soit... championne d'Europe, si on veut que c'est un réel impact.
Du coup, le vivier, c'est quoi, les écoles, les collèges?
C'est les écoles, le collège, avec qui on a une classe handball, avec qui on travaille en partenariat. C'est tout ce travail-là de communication locale.
À quel âge vous prenez les premières...
5 ans, ouais. On a la première catégorie, c'est les premiers pas, et ça démarre à 5 ans.
Jusqu'à
point d'âge, parce que au-delà de l'aspect de la filière vraiment, on va dire, pratique compétitive, on a du loisir. Donc pour les adultes plus de 16 ans qui veulent se faire plaisir en jouant au handball et entre amis.
Et
voilà. Et puis donc on a une pratique en fauteuil. Ouais, les gens en situation de handicap. Ouais.
C'était la question qui m'intéressait là. Mm-hmm. Je sais qu'il y avait, cette section de fauteuil chez vous, Amazon.
Et oui,
elle y est toujours.
Elle est très active
puisqu'on l'a vu récemment à Bédouin sur la fête du sport.
Oui, tout à fait.
Donc,
tout à fait.
Combien de licenciés, combien de membres?
Alors, il y a une vingtaine de licenciés, dont la moitié, un peu plus de la moitié en situation de handicap. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre sur un pied d'égalité des gens valides et des non-valides. Et un pied d'égalité sur une pratique en fauteuil, quoi.
C'est-à-dire, comment tu fais pour... moi, je le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, par exemple...
Toi, comme moi, on peut monter sur un fauteuil et se mettre sur un fauteuil et jouer avec les gens qui sont handicapés.
Laurent, une question? Tu as quelques...
Ben moi, j'abonde un peu à ce que dit Monsieur Vassé, puisque mon petit...
Pascal, oui.
Pascal, tout simplement parce que mon petit vient de prendre une licence au handball de Mazan, et c'est vrai que le handball de Mazan, et c'est vrai que l'accueil des petits est très important et les éducateurs font un travail énorme.
Et Mazan, c'est pas un des clubs les plus anciens, non, du Comtat-Venessin, des environs?
Non.
Parce que c'est quand même un club qui a, tu as lié, à plus d'une quarantaine d'années.
Oui, je crois qu'il a été créé en 70 par par Aimé Navello, oui. Le maire de Mazan.
Le maire de Mazan.
Voilà. Et qui a connu un essor assez important au moment de la création du gymnase. Et puis après, qui a un petit peu flotté, et puis qui est reparti depuis, on va dire, les années 2000. Ouais. 2000, quoi, autour de 2000, oui.
Pascal, les prochaines échéances maintenant, puisque l'heure tourne malheureusement, oui. Les prochaines échéances pour la Nationale 2, pour les, on va dire même,
même les moins de 18
la prénasse
ans qui sont,
et la, les moins de 18. Parle-nous des prochaines échéances. Le prochain match de la Nationale 2, c'est
Ajaccio, dans 15 jours au COSEC, le dimanche après-midi à 16h. Ah. Celui-là, je l'ai en tête. Pour les autres, je ne les ai pas en tête. Mmh. En tout cas, j'espère que ce match contre Ajaccio
servira de déclic,
qu'il y aura beaucoup de monde dans les tribunes et que ben, voilà, les
encourager
fils...
Encourager au moins notre équipe locale, quoi.
Voilà, que l'équipe va démarrer véritablement son championnat à partir de là. Je suis convaincu que l'objectif de départ, c'est un top 5 et je suis convaincu que c'est tout à fait possible.
Samedi soir, 20h, 19h.
Non, c'est le samedi.
Non, le dimanche.
Le dimanche à 16h contre Ajaccio, donc dans deux semaines.
Ouais. À 16h.
À 16h, au COSEC, à Mazan.
Entrée gratuite, il faut le signaler.
Entrée gratuite, oui.
C'est le 28.
C'est le 28. Dimanche 28, donc messieurs, dames, les auditeurs. Si...
Et pour y avoir été à plusieurs reprises, il y a possibilité de se restaurer sur place.
Oui,
hein,
tout à fait.
Voilà, de boire un petit coup, un petit café, et puis de rencontrer des gens que l'on connaît. Voilà, donc alors, moi je les invite tous.
Non, mais en plus, un truc qui est fantastique quand on va au HAND, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre les tribunes et les joueurs. Et on est vraiment super proche de l'action, on va dire, même par moments presque un petit peu trop proche. Mais,
oui, mais, attention au ballon. Ouais.
Écoute, Pascal, on va te libérer, te souhaiter le meilleur pour la fin de la saison, pour la suite en tout cas.
Okay. On va suivre ça de très près. De toute façon, je pense que Pascal reviendra nous tenir un petit peu au courant.
Mais avec plaisir.
Pour les playoffs
Pour les playoffs. Alors, c'est en fait, le premier accède directement à la Nationale 1 et le deuxième joue un match de barrage. On en est très, très, très loin. Top 5, c'est jouable.
Voilà. Eh ben, écoute, voilà, c'est se maintenir déjà, de toute façon, aussi.
Ah ben, le maintien, oui, c'est incontournable.
Ouais, mais il n'a pas osé nous faire la guirouse, ce soir, Pascal. Mais
non, non.
Écoute,
j'ose même pas y penser.
Paris tenu, Pascal, et à très bientôt.
À très bientôt, avec plaisir.
Merci d'être venu nous voir. Bonne chance pour la fin.
Merci beaucoup.
On va passer à la suite avec une petite page musicale, et puis on reviendra avec le Carpentras Équitation dans quelques minutes.
Décoller comme une fusée. Quoi de neuf, j'ai déjà tout misé. chanter, mes démons se réveillent et se mettent à danser.
RTVFM. Allez, nous voici de retour en direct avec ce bon moment passé avec Pascal Vassé qui nous parlait de Mazan. C'est toujours un grand plaisir de recevoir Pascal. Il donne envie de suivre le hand, ce garçon. Et là, on va retrouver une nouvelle chronique. C'est la chronique de Laurent qui va nous parler de courses hors stade et de trial.
De trail, Jean-Yves.
De trail, pardon, trail. Excuse-moi. Écoute,
c'est pas du trial, c'est pas de la moto.
Allez, Laurent, raconte-nous un petit peu. Oui, alors, parle-nous de ton sport de prédilection.
Bonsoir à tous. Bon, mon sport de prédilection, c'est plutôt le triathlon, mais de temps en temps, je participe à quelques trails du coin. Voilà, simplement, est-ce que vous savez d'où vient le mot trail?
Aucune idée.
Ça doit venir encore des pays anglo-saxons, je suppose.
Alors oui, effectivement, ça vient
d'Angleterre,
enfin au moins, voilà. Et en fait, c'est l'abréviation francophone de trail running.
Ouais, d'accord.
Voilà. Et le trail running, c'est tout simplement courir sur des sentiers ou dans des parcours balisés. Voilà, tout simplement.
Ah, d'accord.
Alors, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un trail et une course dite sur piste ou sur route?
Bah, tu viens de le dire.
J'en ai une vague idée.
Trail, running sur des sentiers. Tu l'as dit. Y a déjà et la ça, course mais... sur des
alors,
pistes.
Sur le trail, c'est normal. Sur une course dite sur piste ou sur route. Ouais. Quelle est la principale donnée?
Montée, descente.
Non, c'est la distance.
D'accord.
Tandis que sur le trail, outre la distance, il y a deux données supplémentaires qui sont le dénivelé. C'est-à-dire le dénivelé, c'est ce qu'on appelle le D+. Donc c'est ce
quand
qui...
on monte.
Ouais, exactement. C'est uniquement la montée. Et également la technicité des chemins, c'est-à-dire des monotraces, des déclinaisons et les sols. Voilà. Ça, c'est la différence qu'il y a entre le trail et la course sur route. Il y existe plusieurs types de courses. Est-ce que vous connaissez à peu près?
Non.
Pas du tout.
Et on t'a fait venir pour ça, justement, pour nous apprendre. Parce que
non, mais arrête de nous regarder. Il y a aussi les invités qui peuvent leur poser des questions
On est un peu, novice dans ce truc-là, je t'avoue. Raconte-nous.
Alors, bon, il existe quatre principales courses en trail. La première, c'est la course nature. La course nature, c'est la catégorie des courses, c'est par rapport à la distance. La course nature, c'est tout simplement le fait qu'il y a la distance, c'est moins de 21 km.
Mais quand même. Hein.
Quand même.
Ouais. Parce qu'un trail, donc, c'est quand même une longue distance.
Forcément
par
une
rapport
longue
à une
distance.
Course.
Alors la longue distance, on arrivera tout de suite dans l'ultra trail. Ouais. Mais entre la course nature et l'ultra trail, il y a le trail court. Le trail court, c'est tout simplement une distance entre 21 kilomètres et 42 kilomètres.
Pour moi, c'est très long déjà.
Situer la chose...
Un marathon, quoi.
Voilà, pour situer la chose, c'est entre le semi-marathon et le marathon.
Mm-hmm.
À la suite de ça, il y a le trail proprement dit. La course trail proprement dite, qui a une distance entre 42 kilomètres et 80 kilomètres.
D'accord.
Voilà. Et enfin, l'ultra-trail, c'est tout simplement les courses qui se font au-delà de 80 kilomètres.
D'accord.
Tout simplement.
Diagonale du Fou,
Diagonale
notamment,
du Fou.
Le Mont Blanc.
La Diagonale des Fous va se dérouler ce week-end au Grand Raid de La Réunion.
Ouais.
Hein, c'est 170 km avec pas moins de 10 000 mètres de D+.
Mais comment on fait pour tenir?
Moi,
parce
je
que
sais.
Le corps... En plus,
ouais, il y a des périodes de, il y a des périodes de récup quand même. Je crois que
il y a une grosse préparation physique et mentale.
Oui, voilà, j'allais dire surtout
c'est
plus mental, quoi.
C'est mental, hein, parce que à un moment donné, je pense que
quand ça monte sur plusieurs kilomètres,
je pense que le mental prend le pas sur le physique.
C'est toute une préparation quand même. Hein.
Exactement.
Il y a le Mont Blanc aussi.
Il y
en a une dans l'Aveyron, me semble-t-il. Millau,
bah alors là, c'est plutôt les 100 km
hein,
qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours. 100 km.
Ouais. Il n'y en a pas eu une il y a quelques mois aussi, où, du côté de Millau, me semble-t-il. J'ai dans mes connaissances quelqu'un qui a fait un truc par là-bas et qui est rentré en 39 heures, je crois. C'était pas une question piège, mais
non.
Par contre, dis-moi, Laurent, c'est la discipline, on va dire, à la mode en ce moment, un petit peu le trail, où il y a beaucoup de coureurs qui s'y mettent, soit pour se préparer à la suite de la saison, soit pour simplement se tester sur ce genre de parcours et de compétition.
Alors oui, alors en fait, le trail est devenu on va dire un sport à la mode, hein, parce que ça allie le sport, le bien-être et aussi le contact et le respect avec la nature. Hein. Il faut savoir que beaucoup de courses du trail, alors il y a un respect à la nature, c'est-à-dire que le coureur ne doit pas laisser des déchets dans la nature.
D'accord.
C'est pour ça qu'il existe plusieurs particularité dans le trail. Donc il y a le trail où au milieu il y a un ravitaillement, mm-hmm, hein, qui sera constitué uniquement de barils d'eau pour lesquels tu rempliras
ta propre gourde
ou ton sac d'hydratation. Ensuite tu as le deuxième trail qui est appelé en semi-suffisance, c'est-à-dire que là il y a un seul ravitaillement sur la course.
D'accord.
Qui est en règle générale au milieu. Et enfin, l'autosuffisance, c'est-à-dire que tu prends il y a un ravitaillement à l'arrivée, simplement. C'est l'organisateur contrôle au départ chaque concurrent.
Que tu es tout.
Alors ça peut aller de la barre de céréales, la réserve d'eau, mais aussi couverture de survie, change, etc., etc.
C'est forcément sur des distances un peu moins longues, du coup.
Alors, l'autosuffisance, en règle générale, c'est plutôt sur l'ultra-trail.
L'ultra-trail.
Ouais.
Donc, tu pars pour 40 heures.
Ouais.
Avec ta flotte, ta nourriture, voilà, ta couverture, ouais, éventuellement ta deuxième paire de chaussures dans le sac.
Exactement. Paire de chaussettes, frontales, etc., etc.
Mais comment... pour moi, c'est juste inimaginable, quoi, de partir pendant 40 heures. Enfin, j'ai mon pote, là, Eric Chevalier, qui a fait ça. Je l'ai vu s'entraîner, j'ai vu l'intensité de ses efforts à l'entraînement. Mais pour moi, c'est juste incompréhensible d'imaginer partir pour une distance aussi longue.
Alors, beaucoup de concurrents prennent part à ces courses pour un défi personnel. Après, il y a effectivement les professionnels qui, eux, ont toute une organisation derrière eux, notamment l'un des Français les plus connus en ultra-trail, c'est François Daen, hein, qui sera au départ ce week-end de la Diagonale des Fous. Voilà. Donc, il faut savoir que François Daen, hein, c'est le Français le plus connu, hein, de l'ultra-trail. Il a de nombreux records à son actif.
Et la star du moment aussi, c'est l'Espagnol ou...
Alors, il y a l'Espagnol, Kylian Jornet, hein, qui lui est au-dessus de tout le monde. Hein. C'est Monsieur Trois Poumons, comme on l'appelle, hein, puisqu'il a fait l'ascension du Mont Blanc sans assistance, rien du tout, en short, t-shirt, basket.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais.
C'est lui aussi qui se permet de monter les marches d'un sautoir, d'un tremplin olympique 4x4.
Voilà, exactement.
Ouais, on parle,
oui,
du même.
Enfin, là, c'est un
ultra-trailer extraordinaire.
Oui, mais enfin, il est probable qu'il fasse beaucoup de méditation, de choses comme ça, et qu'il, oui, prend sur lui et qu'il a un mental au-dessus de la moyenne, on va dire.
Voilà, exactement.
Laurent, on va être un petit peu pris par le temps. donne-nous le calendrier, par exemple, si, si on a envie d'aller voir du trail là dans les semaines qui viennent. Est-ce que tu as un événement, par exemple, à nous proposer? Je sais que le Mont Ventoux est une terre de trail. Ouais. Il y a souvent quelques manifs organisés
De chaque côté. Le trail, alors c'est ce qu'on appelle l'ergisport trail du Mont Ventoux, qui se déroulera en mars de l'année prochaine. D'ailleurs, à ce propos, les inscriptions sont déjà
close.
Bien lancé. D'accord. Et beaucoup de monde sont déjà inscrits. Il y a aussi également le Grand Raid des Dentelles de Montmirail, qui était l'année dernière, qui était appelé le Trail de Gigondas, qui cette année change de nom.
D'accord.
Pareil, les inscriptions sont déjà en ligne.
Et tu as un trail pas très loin, comme tout à l'heure il parlait de Millau, qui est au mois d'octobre aussi.
Alors, ouais, peut-être.
Le Trail des Templiers.
Le Trail des Templiers, exactement. Ouais. Voilà. Donc juste pour terminer, hein, juste quelques petites données. Donc la Diagonale des Fous qui se déroule à La Réunion. 164 km et plus de 9920 de dénivelé positif. L'UTMB, hein,
le temps moyen là, pour ce genre de plaisanterie.
Alors le temps moyen, simplement...
On ne parle pas de journée qui doit rentrer un avion.
C'est plusieurs, c'est 3-4 jours.
D'accord.
3-4 jours, et c'est pour ça que la plupart des concurrents passent au moins 2 nuits dehors.
D'accord. Hein,
notamment sur le Grand Raid de La Réunion.
D'accord. Et sur l'UTMB, ça s'appelle,
c'est L'UTMB, ça, donc c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Hein, on est à 171 km et 10 000 mètres de D+. Donc là... On est plutôt dans la neige, mais ça doit être très agréable.
Ça fait rêver Valérie.
Non, pas du tout.
Ça fait rêver.
Non, ça ne fait pas rêver du tout.
C'est l'un des c'est les principaux grands ultra-trails de France. Hein. Bon, il y en a bien sûr à l'étranger. Hein. Au plus proche de nous, ça se situe en Espagne. Ça s'appelle la Transvulcania. Hein. C'est aux Canaries. C'est une distance de 74 km pour plus de 4000 mètres de D+. Voilà.
Ouais. Eh bien, écoute... Merci Laurent. Hein. Merci pour nous avoir fait découvrir très très sommairement, malheureusement, cette discipline.
Oui, parce qu'on pourrait en parler quelques minutes.
Voilà,
tu reviendras
pour nous faire un autre épisode.
Tu reviendras nous raconter la suite, voilà. et puis régulièrement venir nous parler de tes disciplines, puisque le trail, le triathlon...
Exactement.
Multidisciplines.
Merci Laurent.
Merci.
Merci.
Passez une bonne soirée à tous.
Allez, on va passer maintenant... à l'équitation, hein, puisque nous avons toujours nos dames de Carpentras Équitation. Je suis désolé, mesdames, on a été un petit peu secoués par le temps ce soir.
Oh, mais je pense que c'était quand même assez instructif.
Assez instructif.
Voilà.
Allez, on est avec Sylvie Couturier, la présidente, et Marjorie Colbert, l'enseignante. On dit une enseignante à l'équitation, ou un prof, ou un...
On dit une enseignante, on dit un moniteur d'équitation,
voilà.
Souvent.
Ouais,
une
monitrice plus, d'équitation. Voilà, plutôt voilà, ouais. Monitrice, moniteur, oui. Voilà.
Allez, parlez-nous un petit peu de votre club. Alors, le Carpentras Équitation, depuis quand ça existe ?
Eh bien, Carpentras Équitation, ça existe depuis 20 ans, minimum. Voilà, ça a eu des périodes où Carpentras Équitation s'occupait beaucoup des compétitions. Après, il y a eu un petit peu de flottement. Et puis maintenant, Carpentras Équitation reprend pour s'occuper toujours des compétitions et des enfants. Et amener les enfants à venir à l'équitation.
Vous êtes situé où, à Carpentras ?
Ah, on est sur l'hippodrome de Carpentras. On a la chance d'être sur l'hippodrome avec une vue sur le Mont Ventoux magnifique et des installations municipales magnifiques. Donc, un petit poumon vert juste à c'est la sortie de la ville.
Carrément,
très
bien
agréable.
Sûr. Combien d'adhérents au Carpentras Équitation, du coup ?
Une soixantaine.
Et des enfants, des adultes ?
Alors, la vocation de Carpentras Équitation, au-delà de la compétition, qui était vraiment le premier attrait de l'association, c'est essentiellement les enfants. Mais vraiment, on essaye de s'axer de plus en plus sur l'éveil de l'équitation aux enfants. On les accueille à partir de 3 ans. Ouais, 3 ans. Donc, on a des cours spécialisés, en fait, réservés, on va dire, aux 3-6 ans, hein, qui sont quand même une découverte de l'activité. Et après, jusqu'à entre 7 et 12 ans, en règle générale, les enfants démarrent l'équitation.
C'est vraiment une marque de fabrique de votre club, la formation, on va dire, la découverte ?
Non, pas du tout. On est régi par une fédération, comme beaucoup de sports, et c'est national, et c'est quasiment tout le monde maintenant accueille les enfants assez jeunes. On a la chance d'avoir un sport qui nous permet de le faire. Il y a même des clubs sportifs qui le font sur du baby poney, des enfants dès l'âge de 18 mois. Donc,
d'accord.
Donc c'est pas une spécialité. Après, on s'oriente là-dessus parce que c'est vrai que c'est tellement plus agréable de leur faire découvrir
on sait
l'animal de bonheur que voilà.
On sait dans le sport et c'est un sport aussi hein, l'équitation, mais on sait qu'il y a des clubs qui sont plus axés vers la compétition, d'autres clubs qui sont plus formateurs. Est-ce que vous inscrivez plus dans la formation que dans la compétition?
Alors, depuis quelques années, oui, plus dans la formation que dans la compétition. Et en fait, je rejoins un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. Bah, c'est vrai que c'est très important. Et les premiers pas à poney, c'est ce qui fera nos futurs compétiteurs. Et on espère qu'ils resteront. Et qu'ils, alors, on n'en est pas à jouer sur des équipes nationales. Mais on a quand même régulièrement dans les clubs du Vaucluse, et en l'occurrence à Carpentras Équitation, des cavaliers qui partent au championnat de France avant leurs 18 ans. Donc on axe quand même beaucoup sur la formation de départ qui va leur donner envie de continuer sur l'activité derrière, sur l'activité plus sportive, on va dire.
Tout à l'heure, je voulais revenir, tout à l'heure hors antenne, Sylvie m'a dit que ça fait 20 ans que tu es dans le club, Sylvie.
Oui, tout à fait.
Et que tu es présidente depuis...
Ah non, moi je suis présidente depuis 2 ans. Oui,
depuis
voilà.
2 ans. Mm. Donc tu as vu l'évolution de ce club parce que je crois que c'est du poney que vous avez, hein, c'est ça tu m'as dit,
oui.
Avant c'était un poney club.
En fait, on a des poneys et des chevaux. Le vrai historique, c'est vrai qu'on avait des chevaux quand même au départ. Ouais. L'équitation à poney se développe depuis une quinzaine d'années vraiment, donc... On a commencé par des chevaux. Il y a 20 ans, c'était essentiellement des chevaux.
Des chevaux, oui. Avec plus de... Ça change, enfin, ça évolue dans le temps. Donc, au départ, il y avait plus de dressage. Maintenant, il y a plus de sauts d'obstacles, plus de nouvelles activités là, qui sont proposées. Parce que Marjorie aime découvrir aussi.
Oui, mais justement.
Donc, elle fait découvrir.
Justement, Marjorie, tu peux nous parler de ce sport, de cette discipline que vous avez, qui est particulière, que je n'avais jamais entendue avant le mois de septembre, lorsque je t'ai vu à la journée des associations.
Le fameux tir à l'arc, c'est ça?
Voilà, à cheval.
Alors, le fameux tir à l'arc à cheval. Alors, c'est vrai que le tir à l'arc à cheval existe depuis la nuit des temps, hein, quand même.
Oui, on voit dans les films de
Coppola. Ouais, voilà. J'allais dire, moi, j'ai toujours Geronimo en tête, Robin des Bois.
C'est ça. Alors, moi, je découvre aussi un petit peu l'activité depuis un an et demi, donc je peux pas vous remonter tout l'historique, mais c'est vrai que c'est une discipline qui se pratique ancestralement. C'est une discipline que la fédération cherche à mettre en avant depuis 4 ans environ, et voilà, et à laquelle je me suis intéressée depuis un an et demi, 2 ans. Je m'y suis mise moi-même pour le pratiquer. Et
c'est pas difficile, parce qu'il faut quand même savoir tirer à l'arc.
Alors,
c'est
ce que je croyais, en fait, pas du
non.
tout. Enfin, c'est,
ah, il faut mettre,
on
il
va
faut
pas
mettre.
Dire que c'est facile, mais à partir du moment où on est cavalier, ça reste dans nos compétences de cavalier. On nous rajoute juste un arc dans les mains.
Ouais,
en fait.
Mais enfin, bon, l'arc, il faut savoir quand même tirer.
Oui, mais c'est voilà.
Je suppose qu'il existe des compétitions et que c'est quand même de la précision.
Et du coup, vous tirez sur... c'était la suite de la question. Vous tirez sur quoi au juste?
Ah ben, exactement comme le tir à l'arc à pied. En fait, on a des cibles. Pour avoir dans ma clientèle quelques personnes qui font du tir à l'arc à pied, ils disent oui, mais vous, c'est facile puisque les cibles sont très proches. Alors, c'est vrai que les cibles sont très proches. Nous, on tire environ alors, sur les premiers niveaux à 5-6 mètres, puis 10 mètres, et le maximum, ça doit être 40 mètres par rapport.
Mais bon, quand même.
Voilà. Alors, comme j'aurais répondu, en effet, fondamentalement, on tire très près, mais on a le cheval en mouvement.
Ouais.
Voilà.
Mais ça bouge.
La difficulté, c'est ça. Mais c'est des cibles au sol. Exactement comme...
Mesdames, je vous propose de revenir dans quelques minutes, puisqu'on a une pause musicale qui arrive, et on va continuer à parler de Carpentras Équitation. Virginia Woolf and poetry, no one seemed to notice me. Being young is getting so old. Cheap beer and cigarettes, life is like a movie set, and I seem to be given no role. But in times of trouble, I can turn to my mother, and I know that she gon' understand. So at age 18, I cried to my mother, and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud. No, just be as you are. Life is not always a comfortable ride. Everybody's got scars that they hurt, and everybody plays the fool sometimes. Yeah, just be as you are. We'll
on the radio and everything was changing, so I thought I was all the way grown. But I can still remember in that cold November when I realized I'm all alone. But in times of trouble I can turn to my mother and I know that she gon' understand. So at age 22 I cried to my mother and she told me, young man, there are moments when you fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no, just be as you are. Fall to the ground, but you are stronger than you feel you are now. You don't always have to speak so loud, no, just be as you are. It doesn't matter if you become some star, life is better when you open your heart. You don't always have to act so hard, no, just be as you are.
RTVFM. Allez, de retour pour la dernière partie de ce RTV Sport du lundi soir avec Sylvie Couturier, la présidente de Carpentras Équitation, et puis Marjorie Colbert qui est l'enseignante de ce club. On était en train de parler de ce sport.
Ouais. Qu'on ne parle pas assez à l'école, sur les antennes ou même à la télé.
Sport très nature. Voilà, beaucoup de bienfaits pour les enfants.
Le cheval en général. Parce que les seuls moments où on voit de l'équitation, bah c'est tout à l'heure Pascal le disait, c'est aux Jeux Olympiques.
C'est les Jeux Olympiques, absolument.
C'est oui, exactement fait, oui. Le problème.
De beaucoup de disciplines sportives, malheureusement. Oui, oui.
Puis alors, avant, il y avait des cavaliers qu'on connaissait tous, quoi. Il y avait Rosier, par exemple. Moi, j'ai entendu parler de Rosier. Alors, bien sûr, une fois tous les 4 ans, et ça a duré pendant 20 ans.
C'était il y a bien longtemps, quand même.
Oui, mais
ça prouve l'âge avancé.
J'avais été gentil jusque-là, mais voilà.
Vous allez non, à la limite, bon, vous allez on va mettre... parler de Pierre Durand, avec
Pierre
le
Durand aussi,
évidemment,
ouais, voilà,
qui
voilà.
A été plus connu du grand public.
Qui a été l'objet d'un film, me semble-t-il, oui, dernièrement, c'est ça. Vous m'avez coupé le truc.
Bah c'est pas grave. Moi, je voulais juste parler d'une
mais
chose.
Mais il n'y a pas d'âge hein, pour faire de l'équitation et encore moins du tir à l'arc à cheval.
Ce que je ne savais pas et ce que Marjorie m'a fait découvrir, c'est les différentes tailles de poney. Je crois, pour moi, un poney, c'était un petit cheval. C'est tout. Mais il existe plusieurs.
Alors, il existe plusieurs tailles de poney. D'ailleurs, c'est souvent très, très rigolo. Les gens arrivent en disant, moi, je veux que mon enfant, il fasse du cheval. Mmh. Et quand on le met devant un cheval, il dit, non, mais ça, c'est trop grand. Et quand on le met devant un grand poney, il dit, bah voilà, ça, c'est un cheval. Donc, non, c'est un poney. Donc, les poneys, oui, c'est vraiment toutes les tailles, plusieurs races et toutes les tailles. Ça va de 80 cm jusqu'à 1m40 et quelques. Mmh. Voilà. Après, 1m50, c'est du cheval. Mais, Donc, ça veut dire que, quel que soit l'âge de l'enfant, en fait, on arrive à trouver un poney
adapté
à la bonne taille.
Ouais. Mais ça, je ne savais pas. Pour moi, un poney, quand je voyais dans un pré un cheval et à côté un petit, je disais, oh, bah, c'est un poney. Puis pour moi, c'est
ou
vrai
un poulet,
c'était...
non
voilà. Non, le poney, on voit quand même, c'est reconnaissable, un poney. Mais je pensais qu'il n'y avait pas autant de taille que
voilà,
ça.
Voilà, souvent, les gens pensent que le poney, c'est quelque chose de très petit, petit. Et en fait, pas du tout. Il y a des poneys de taille moyenne et pas minuscule.
Parle-nous du bien-être que ça peut apporter, par exemple, de faire du poney, puisqu'on en parlait un petit peu hors antenne là, mais on sait que c'est un sport qui peut amener beaucoup de bien aux enfants et même aux parents qui le pratiquent, parce que c'est apaisant d'être de devoir déjà s'occuper d'un animal, de devoir s'occuper d'autre chose que de soi. Ça oui, m'intéresse oui. un petit peu ça, cette partie-là.
Ça va être difficile à expliquer. C'est vrai que la relation à l'animal, tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est un petit peu compliqué. Et maintenant, c'est vrai que souvent, les enfants sont totalement différents au bout de quelques séances d'équitation, dans leur comportement, dans leurs attitudes. Ça peut les apaiser, ça peut les faire grandir un petit peu plus vite aussi pour certains. Des enfants qui sont des fois un petit peu sur la réserve vont arriver à s'exprimer à travers le poney et l'équitation. Et on va dire des enfants un peu agités vont vraiment se calmer, se reconcentrer. On a aussi toute une partie de théorie. On est un sport où il y a quand même un animal au milieu, donc on a des règles à respecter. On va rentrer dans dans une vie sociale avec des règles à respecter, la sociabilisation.
L'entretien du cheval aussi, je suppose que vous apprenez aussi.
Voilà, et donc on a quand même les parties du poney, les brosses, il y a tout un tas de matériel qui va autour. Donc on a
ça fait nécessairement partie de.
Ils sont obligés de lire, de regarder, de comprendre, donc
d'avancer,
d'être concentré hein, pour certains. Voilà.
Je disais, ça fait nécessairement partie, le fait de prendre soin de son cheval ou de son poney et de lui prodiguer des soins, ça fait nécessairement partie de la formation du petit cavalier débutant, on va dire.
À mon sens, oui, c'est indispensable. On ne peut pas juste monter dessus et pas avoir le contact à l'animal. De toute façon, alors nous, on propose aussi des petites promenades où les gens viennent avec leur enfant. On leur propose un poney, ils vont faire un petit tour avec. Et on constate que de toute façon, ces petits minots qui vont en règle générale 4-5 ans sont demandeurs. C'est-à-dire que même si ce n'était pas prévu, il faut qu'ils aillent toucher le poney, voir le poney. Donc oui, pour moi, ça paraît indispensable. Je pense que l'enfant a besoin d'apprivoiser le poney par le contact, la préparation et les soins qu'il lui prodigue.
Est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse? Ce n'est pas plutôt l'animal qui apprivoise, entre guillemets, l'homme? Quand je dis l'homme, c'est avec un grand H. Parce que, je veux dire, un enfant va se rapprocher, mais parce qu'il y a la bête qui lui rend, qui lui donne quelque chose, en fait. Pour moi, je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai un ressenti, quoi. On va aller, on ne connaît pas le cheval, ou le poney, là, un enfant, quoi. Et puis... tout à coup, l'enfant change.
Mais en fait, le cheval ne parle pas, donc on est vraiment dans de la relation non-verbale. Et le poney n'a pas d'a priori. Voilà. Donc, ça va être une relation très naturelle qui va s'établir. Mais c'est quand même souvent les enfants qui vont d'eux-mêmes vers le poney. Mmh. Très, très souvent. Ils sont très attirés. On le voit bien d'ailleurs sur, oui. comme tu as pu le voir, sur le forum de la journée des associations. Hein. Oui. C'est vrai qu'ils sont très,
vous
très
avez
attirés.
Vous n'avez pas arrêté, d'ailleurs.
Voilà.
Mais les enfants, eux, ils ont des a priori. Donc, une fois qu'ils ont établi le contact avec le poney... et qu'ils se sentent, qu'ils se mettent à sourire au lieu d'avoir peur en arrivant à côté du poney, eh bien, il y a déjà un pas qui a été fait. Il y a déjà une étape qui a été franchie et l'enfant va spontanément retourner le caresser, le brosser, réclamer même. Alors qu'au début, il est arrivé, il était très réticent.
Et puis, c'est quand même le moment où on leur donne une énorme responsabilité. C'est-à-dire que même si on est avec eux pour les aider, il est vrai que quand ils arrivent au Poney Club, qu'ils aient 4 ans ou qu'ils aient 10 ans ou 12 ans ou même plus grand, la première chose qu'ils doivent faire, c'est s'occuper de cette petite bête qui ne peut pas le faire tout seul. Donc l'enfant se sent responsable de sa monture, comme on dit, et c'est quelque chose d'assez énorme pour eux. Ça les fait grandir, c'est formidable. Les parents sont très, très souvent très impressionnés en quelques séances d'ailleurs. Et les enfants, d'eux-mêmes, au bout de quelques séances, expliquent à leurs parents comment il faut faire. Donc je pense qu'on a un vrai rôle éducatif au niveau de l'enfant.
Et comment on peut... là, je reviens, je change complètement, parce que bon, c'est vrai qu'on arrive vite à...
Vas-y, on est à la fin, ouais.
Voilà, quels sont les jours d'entraînement où,
Tu m'as piqué ma question.
Voilà. Et où on peut vous joindre.
Tu m'as piqué ma question, Valérie.
De toute façon, vous l'aurez dit, hein, quand même, à un moment donné, même si vous ne posiez pas la question. Alors, le poney, c'est essentiellement les mercredis et samedis et vacances scolaires. Les mercredis matin, samedi matin pour les tout petits, donc avant 6 ans. Et les mercredis et samedis après-midi pour les plus grands. Et après, toute la semaine pour les...
Pendant les vacances
pendant
scolaires.
Les vacances scolaires, c'est tous les
jours. Et vacances scolaires, alors pas complètement tous les jours parce qu'il en faut pour tout le monde. Mais les vacances scolaires, oui, la première semaine, par exemple, des vacances d'octobre, on a des stages poney tous les jours. Du lundi au vendredi. Et la deuxième semaine, par contre, on se consacre à la compétition puisqu'on a un concours de saut d'obstacles chez nous.
Donc la semaine prochaine, c'est les vacances scolaires.
Oui.
Donc c'est ouvert pratiquement tous les
jours. C'est ouvert
tous
les jours.
Si on veut venir découvrir,
aucun problème.
Voilà. Une dernière question, si on a envie de venir découvrir et qu'on n'est pas licencié, qu'on n'a jamais fait de poney.
Eh bien, il n'y a aucun souci. On est ouvert à tout le monde.
Surtout que Majorie, elle est super sympa.
Voilà, donc...
non, si vous... Madame la Présidente aussi.
Non.
Merci, merci.
Non, tu finis vrai. Sur
c'est-à-dire qu'on a plus l'occasion de me rencontrer moi, en fait. C'est surtout ça.
Allez, donc, il est temps de rendre l'antenne et puis de vous remercier, mesdames,
merci de vous avoir
d'avoir
invité.
Bien voulu répondre à notre invitation. Merci Valérie.
Merci Jean-Yves.
Merci Théo. Et puis
merci.
À très bientôt, à lundi. La rediff, c'est mercredi matin, 6h30.
8h.
8h. Et puis le podcast c'est
mercredi.
À partir de mercredi après-midi.
Voilà.
Sur rtvfm.net.
Voilà, c'est très
et
bien.
Et sur la page de Facebook. J'ai bien appris, t'as vu.
Ouais.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes.
Et à la semaine prochaine.
Très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.